Amélie Méloman.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort. Voilà. Pas encore. Maintenant.
Bonjour à vous, et voilà la musique classique, oui, la musique classique qui revient après une longue absence sur Divergence FM. La musique classique revient avec Mélie Méloman. Alors Mélie Méloman, écrivez-le avec un E ou sans E à la fin. Mélie Méloman, bah c'est moi, j'ai envie de dire le Mélie Méloman, Marco Sorgin, donc Méloman, d'abord Méloman, donc une émission de musique classique où on parlera en tant que quelqu'un qui aime bien la musique classique, hein, ou comme disaient les Anglais, moi j'aime la musique classique, la musique je ne sais pas si j'aime tant ça, mais le bruit que ça fait, j'adore. Voilà, et ben c'est un peu ma position de mélomane, et c'est ce que je vous proposerai de partager. Et Mélie Mélo, bah oui, Mélie Mélo, parce que la musique classique, c'est aussi de la musique romantique, c'est aussi de la musique baroque, c'est les frontières du jazz, c'est la musique contemporaine, électro-acoustique, c'est les percussions, c'est la musique de chambre, c'est l'orchestre symphonique, c'est l'opéra, c'est tout ça. Et eh bien, on va faire un grand millimélo de tout ça. On s'intéressera aussi à l'actualité, un petit peu, bien sûr, aux concerts. Alors, les concerts à Montpellier, il y a de belles choses qui se passent à Montpellier. En plus, on a un chef à l'orchestre de Montpellier, qui est une belle pointure, Michael Schoenwandt, le chef d'origine danoise. C'est un sacré chef. Donc, bah oui, on se préparera, on vous proposera, de se préparer au concert en découvrant avant les œuvres qui seront jouées en concert. Et puis, les disques, il en sort beaucoup. On mettra des disques aussi. Et puis même, tiens, on va commencer cette première émission avec ça, des livres sur la musique. Les livres sur la musique, c'est aussi intéressant et ça permet parfois au mélomane, à l'amateur. Quand je dis mélomane, c'est simplement celui qui aime la musique. Hein. C'est pas celui qui est un expert en musique. Il peut l'être après, par plaisir. Mais d'abord, le plaisir de la musique. Alors, bah justement, on va parler d'un livre, mais commençons par le début.
The Canadian pianist Glenn Gould is to be soloist now, Leonard Bernstein conducting the New York Philharmonic in a performance of the Piano Concerto No. 1 in D minor by Brahms. I think Mr. Bernstein will have something to say to the audience, so down to the stage.
Don't be frightened, Mr. Gould is here. We'll appear in a moment.
Alors voilà peut-être une drôle de façon de commencer. Nous sommes en 1962, une prise de son d'un concert. Vous l'avez peut-être entendu, Leonard Bernstein qui dirige, le grand chef Leonard Bernstein, puis ce pianiste très excentrique, très bizarre, Glenn Gould. Et puis, ben, là, ce que Bernstein est en train d'expliquer, c'est qu'ils vont jouer le premier concerto pour piano de Brahms. Ben, c'est que les conceptions entre le pianiste et le chef sont tellement différentes que c'est même des désaccords, et puis que ça a été des frictions. Mais Bernstein reconnaît dans Glenn Gould un artiste tellement investi, tellement intéressant, qui dit bah, « je vais quand même diriger cette œuvre-là avec, comme pianiste, Glenn Gould ». Mais il prévient le public « attention, nous ne sommes pas d'accord sur les options d'interprétation, des tempo au pluriel, hein, un peu bizarre, des indications de Brahms pas respectées par le pianiste, n'empêche que je vous offre quand même cette œuvre-là avec lui. Ça a fait date dans l'histoire de l'interprétation du concerto et beaucoup d'autres se sont inspirés par la suite. Mais au début, c'était pas évident. Écoutez un tout petit peu.
The answer is, of course, sometimes one and sometimes the other, depending on the people involved. But almost always the two manage to get together by persuasion or charm or even threats. to achieve a unified performance. I have only once before.
Vous entendez, il dit, un chef et un soliste, comment ils s'accordent? Séduction, discussion, voire menace.
But this time, the discrepancies between our views are so great that I feel I must make this small disclaimer. So why, to repeat the question, am I conducting it? Why do I not make a minor scandal, get a substitute?
Et le chef se pose la question, mais pourquoi je dois diriger ça? J'aurais pu me faire remplacer. Important. Il aurait pu demander à son assistant. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure c'était important.
Because what's more, there are moments in Mr. Gould's performance that emerge with astonishing freshness and conviction. Thirdly, because we can all learn something from this extraordinary artist who is a thinking performer. And finally, because there is in music what Dimitri Mitropoulos used to call the sportive element, that factor of curiosity, adventure, experiment.
L'interprétation de la musique classique comme un sport, une expérience, une vraie expérience de vie.
Mr. Gould on this Brahms concerto, and it's in this spirit of adventure that we now present it to you.
Voilà, alors, cette interprétation du premier concerto de Brahms, qui fera date pour beaucoup de mélomanes, surtout ceux qui ont la chance d'y être, ça a été le point de départ d'une rencontre entre Murakami, l'auteur japonais, et un grand chef japonais, Seiji Ozawa. Alors je disais, l'assistance est importante, parce qu'à un moment de sa présentation, Bernstein dit, j'aurais pu laisser mon assistant prendre en charge cette interprétation si moi j'étais pas d'accord avec le soliste. Et l'assistant, c'était un jeune chef japonais, Seiji Ozawa. Voilà. Alors, les deux, Murakami et Ozawa, se sont rencontrés et puis ils ont discuté. Ils se trouvaient que leur fille était amie. Bon, ils ont discuté. Et puis, Murakami est en fait un mélomane, un vrai mélomane. C'est pas simplement un écrivain, c'est un grand mélomane. Et puis, ils ont discuté. Et puis, des discussions intéressantes. Mais Murakami ne voulait pas embêter Ozawa à lui parler de musique. Il disait, bon, il a un emploi du temps tellement chargé. Quand je le rencontre, on va parler d'autre chose. Et puis, un jour, Ozawa a eu des problèmes de santé. Il avait un peu plus de temps disponible. Et Murakami a fait la proposition à Ozawa de conversations autour de la musique qui seraient enregistrées. Et ça, ça a été ma super trouvaille, si je puis dire, qui date de moins de 24 heures. C'est hier que je suis tombé sur ce livre. Haruki Murakami, Seiji Ozawa, de la musique. Conversation, voilà, un certain nombre de conversations enregistrées entre les deux. Alors c'est présenté d'une façon tout à fait, c'est un dialogue, donc ça s'adresse pas à des spécialistes. Oui, vous êtes mélomane, mais il n'y a pas besoin d'être musicologue pour suivre, parce que Murakami, lui, est un amateur de musique, c'est pas un musicien. C'est pas le chef d'orchestre qui parle avec un étudiant en musicologie ou avec un futur chef d'orchestre. Et il parle des musiques. Ils écoutent des interprétations, et puis Ozawa commente. Donc, on revient sur la carrière du chef, et puis on creuse des œuvres. Et c'est ce que j'en ai lu jusqu'à présent, quand on est amateur de musique, c'est terriblement stimulant. Ça vous invite à découvrir la réalité de ce que c'est que la direction d'orchestre, même quand vous croyez connaître, on découvre des choses. Et puis, ça invite à revisiter les œuvres. Alors, par exemple... Ils vont parler ensemble du style des chefs d'orchestre. Ah oui, les chefs d'orchestre ont des styles différents. Et puis, ben là, Ozawa va notamment comparer deux chefs avec qui il a étudié. Hein, un certain Herbert von Karajan, quand même. Même si on ne connaît pas la musique classique, on connaît ce nom-là. Et puis l'autre, Leonard Bernstein, qu'on vient d'entendre. Alors, vous savez, on racontait d'ailleurs une histoire assez drôle sur ces deux chefs pour caractériser leurs différences. Bernstein, qui était quelqu'un d'enthousiaste, très pédagogue, qui pouvait avoir des ratages et puis des réussites. Puis Karajan, très hautain, très autoritaire, très... voilà. Alors, on racontait, ça se passait entre trois chefs, cette histoire-là. Entre un chef qui était à l'époque... considéré comme le spécialiste de Mozart, Karl Böhm. Et puis les trois chefs sont autour d'une table en train de discuter. Et puis Karl Böhm dit « Mais le plus grand, c'est moi, parce que moi, je suis un spécialiste de Mozart, le plus grand des compositeurs. » Bernstein lui dit « Non, le meilleur, c'est moi. Le meilleur, c'est moi, parce que moi, je suis compositeur en même temps. » Effectivement, compositeur notamment de musique de West Side Story, entre autres choses. Et puis, de toute façon, je le sais, puisque c'est Dieu, Dieu me l'a dit. Oui. Bernstein est aussi très religieux. Et sur cette phrase-là, Karajan se tourne vers lui, très hautain. Moi, je ne t'ai rien dit. Voilà, ce qui illustre un petit peu. Alors, Bernstein, quelqu'un qui est fonctionné à l'instinct, grand pédagogue, mais qui fonctionne à l'instinct, qui avait parfois des problèmes d'autorité avec, avec ses orchestres. Karajan, qui préparait tout, qui savait exactement ce qu'il voulait obtenir et qui faisait répéter l'orchestre 10, 15 fois s'il n'avait pas le son qu'il voulait obtenir. Et tout était très préparé. Voilà. Se faire obéir ou pas, c'est aussi le problème du chef d'orchestre. Voilà. Alors, on aura plein de choses comme ça à découvrir. Notamment, comment on passe de la partition à la musique, et que c'est plein de surprises. Alors notamment, Ozawa raconte comment il avait lu le Wozzeck d'Albanberg. Hein, Albanberg, donc compositeur du début du XXe siècle, qui a écrit un opéra qui s'appelle Wozzeck, une œuvre très importante dans l'histoire de la musique. Il avait travaillé sur la partition. Bon, c'était bon, il avait pensé avoir compris la musique, il avait même travaillé sur des réductions piano, ainsi de suite. Et puis le jour où la répétition a les répétitions ont commencé, il se dit « Oh là 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 là, ça va pas du tout, ça va pas du tout ça ». Il a découvert des problèmes, il croyait avoir compris la partition, et il s'est rendu compte que pas tant que ça, tout compte fait. Donc oui, c'est un travail de s'immerger dans cette partition. Et puis le chef, souvent, il découvre la partition au dernier moment, alors que le soliste, quand il y a un soliste, lui, ça fait des mois qu'il la travaille. Donc, il y a ce décalage. C'est la vie, vous voyez, c'est la vie au cœur de l'orchestre qu'on ne connaît pas. Et puis, il parle aussi, par exemple, de sa découverte de Mahler. Alors là, il faut que je vous retrouve le passage, parce que c'est assez extraordinaire. Il est étudiant avec Bernstein, qui à l'époque, on est au début des années 60, hein, là où je disais c'était 62, la musique de Mahler, de Gustav Mahler, n'était pas très jouée, hein, même rarement jouée et encore plus rarement enregistrée. Et un chef comme Leonard Bernstein a énormément fait pour faire découvrir cette musique. D'autres chefs et d'autres orchestres ont continué derrière lui. Donc il raconte qu'il faisait ses études, Ozawa, et puis il travaillait sur des partitions, et lui, il ne connaissait pas Mahler. Jamais il avait entendu ça. Hein. Il explique à Murakami ce que ça a été pour lui, cette découverte de Mahler au début des années 60. Je cite, « Le choc a été très violent pour moi. Avant, je ne savais même pas qu'une musique pareille existait. » Je veux dire, nous étions là, à Tanglewood, là où il y avait l'école de musique, à jouer Tchaïkovski et Debussy, et pendant ce temps, il y avait ce gars, il s'agit d'un autre étudiant, qui employait toute son énergie à étudier Mahler. J'en suis devenu pâle de honte et je me suis obligé de commander aussitôt mes propres exemplaires des partitions. Après, je me suis plongé comme un fou dans leur lecture. La première, la deuxième, la cinquième. Murakami, est-ce que vous éprouviez du plaisir à la lecture de ces partitions ? Ozawa, un plaisir extraordinaire. Comprenez-moi bien, de toute ma vie, je n'avais jamais rien connu de comparable. Dire qu'il existait des partitions comme celle-là. Voilà, comme quoi un chef peut découvrir et s'émerveiller. Alors, c'est une chance extraordinaire pour ces musiciens, rien qu'à la lecture d'une partition. nous, il nous faut écouter la musique. Alors, tiens, on va mettre un peu de musique quand même. Une émission sur la musique où je fais que parler, ça va pas cette affaire-là. Alors, on va mettre un petit extrait de la 3e symphonie de Gustav Mahler que vous pourrez entendre. Alors, joué par l'orchestre de Montpellier sous la direction de Michael Schoenwand, c'est le 8 février au Corum. Et là, je vous propose le 5e mouvement de cette symphonie où on entend un chœur d'enfant. Gustav Mahler, le 5e mouvement de la 3e symphonie, et c'était Seiji Ozawa qui dirigeait. Une symphonie que je vous encourage à aller écouter le 8 février avec l'orchestre de Montpellier dirigé par Michael Schoenwand. Une symphonie fleuve, grande symphonie à tous les sens du terme, elle est longue avec un premier mouvement avec une certaine assez sombre, assez sauvage et très très ample, et puis 6 mouvements au total quand même, hein. c'est pas rien. Et puis on a un mouvement, on va voir une voix qui va arriver tout d'un coup, c'est une espèce de pause dans la musique. Et puis derrière on a ce 5e mouvement qui va être avec la voix et les chœurs. Il y en a cette, tout d'un coup cette lumière qui arrive, quelque chose de symphonie assez extraordinaire. Faut s'y plonger vraiment. Certains disent c'est une épreuve pour le chef, c'est une épreuve pour l'orchestre, c'est aussi un voyage pour le public. Alors, petite anecdote sur cette troisième symphonie. À l'époque où Mahler composait cette troisième symphonie, il s'était réfugié au bord d'un lac, hein, dans un petit village qui s'appelle Tolblach. Il avait sa petite maison. Et puis, le chef d'orchestre est dû le voir. Je crois que c'était Bruno Walter, qui était un chef qui a travaillé directement avec lui. Pour savoir, il en était de cette symphonie. Et puis, il a découvert le lieu et dit oh, « la nature est extraordinaire ». L'histoire raconte que Mahler lui a dit « mais c'est pas la peine de la regarder, tout est dans ma musique ». Et effectivement, surtout dans le deuxième mouvement de la symphonie, on entend la nature de façon assez extraordinaire. Voilà, allez écouter cette troisième symphonie, c'est un beau voyage. Hein. Alors, la vie d'un chef, ce qu'on nous raconte aussi aux Awa dans ses échanges avec Murakami, c'est pas toujours ça. Il arrive que les chefs se fassent huer. Oui. Alors, ça n'arrive pas au Japon. Non, ça n'arrive pas au Japon. Le public japonais est un public très sage, très respectueux. En France, c'est arrivé, oui. En France, c'est arrivé. On a des créations d'œuvres célèbres qui ont été des grands scandales. On raconte, par exemple, la création du Sacre du Printemps de Stravinsky par Pierre Monteux. Il y a eu un chahut tel que le chorégraphe était obligé de battre la mesure dans les coulisses parce que les danseurs n'entendaient plus l'orchestre. Imaginez, ça se passe au Théâtre des Champs-Élysées. Je vous en parlerai peut-être une autre fois. Là, petit échange sur l'opéra entre Murakami et Ozawa. Mais on va s'accompagner avec quelque chose. Alors les mélomanes avertis ont reconnu, et surtout les amateurs d'art lyrique, ont certainement reconnu le début de Tosca, l'opéra de Puccini. Alors, petit propos de Murakami sur l'opéra, qui dit « Je ne pense pas trop m'avancer en disant que l'opéra a l'essence même de la culture européenne. » Oui, alors cela, bien sûr... Le chef est assez d'accord et il pose la question parce qu'il est allé diriger à la Scala et puis c'était un chef japonais. On n'avait pas l'habitude des chefs japonais à l'époque. En 80, il est allé à la Scala. Bon, il était quand même déjà connu. Pensez-vous que l'arrivée d'un chef japonais sur un tel terrain a suscité des résistances ? Alors, récit de Ozawa tout à fait intéressant. Bien sûr, la première fois que je suis monté sur scène au Teatro alla Scala, 1980, j'étais copieusement hué. C'était pour Tosca. Pavarotti, Luciano Pavarotti, chantait le rôle-titre. On s'entendait bien, il m'avait invité à venir à Milan. Il voulait vraiment travailler avec moi. Et comme je l'appréciais, j'ai accepté. Karajan était totalement opposé à cette idée. « C'est du suicide, ils vont te crucifier », m'avait-il dit. Murakami, qui allez-vous crucifier ? Ozawa. Le public, celui du Teatro alla Scala, est connu pour mener la vie dure aux artistes qui montent sur ses planches. Ça n'a pas manqué. Il m'a hué comme jamais. J'ai dirigé 7 concerts là-bas, mais j'ai remarqué qu'après le 3e, plus personne ne me huait. Après ça, tout a été comme sur des roulettes. Alors, est-ce qu'un chef se fait souvent huer ? Oh, pas si souvent que ça, comme ça. Quand même. Ozawa, explique à moi, Camille. La première fois que ça m'est arrivé, c'était lors de ses représentations au Théâtre alla Scala. Et je trouve que c'est à cette période que ma mère a fait le déplacement à Milan depuis le Japon. Vera ne pouvait pas venir parce que les enfants étaient encore petits. Ma mère est donc venue à sa place pour me préparer de bons petits plats japonais. Eh oui, on est en Italie, mais on est japonais. Elle était dans le public le soir de la première. Et quand on a entendu les cris fusés, elle a cru qu'ils criaient tous « Bravo !» Il y avait tellement de bruit qu'elle était persuadée que tout le monde appréciait mon interprétation. En rentrant à l'hôtel, elle m'a dit comme c'était merveilleux, tous ces gens qui t'acclamaient. Quand je lui ai expliqué qu'il ne m'acclamait pas, mais qu'il me conspuait, elle n'a pas compris. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant.
Che fai?
Recito l'Angelus.
Voilà, c'est donc 1980, c'est une captation de la RAI qui a filmé et enregistré la Tosca. C'est Luciano Pavarotti, c'est Seiji Ozawa. Vous avez entendu qu'on a dû passer le cap des trois représentations là, parce qu'il n'est plus conspué. Il, parce que ce n'est pas seulement le chef, c'est aussi les chanteurs, ils sont largement applaudis. Voilà, sur ces applaudissements, bien sûr, nous terminons cette première émission de Méli Mélomane, le retour de la musique classique sur Divergence FM. J'espère que cette émission vous a plu et si c'est le cas, rappelez vos amis qui avaient déserté Divergence FM parce qu'il manquait de musique classique qui peuvent revenir sur Divergence FM maintenant. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine. À bientôt. Méli Méloman.
Là, il faut me donner le maximum.
L'émission de musique classique de Divergence FM.
Vous commencez beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort.